Porte de Rouen
sur le DAB+.
My name is Matt, and my neighborhood is cracked up. Mums are smoking pack up. Nas pills and heroin, I'm better than I ever been. Since I got my stats up, a little soap and water, clean my act up. Home and pro map, it's that medicine. Catch up, a younger left behind, I ain't no ornate rapper. A whitey with no Jesus, just an ornate cracker. Your city's under siege. As for me, I don't do trendy or them skinny dungarees. I'm the man before and after. You know I'm is. I'm that pill the morning after. I ain't playing with you kids, nah. You can see I'm past ya. No problem. More or less a non-mother effing factor. Keep talking and you next. According to a vet. Yeah, I ain't scoring when I'm going for your neck. Whether touring or driving something foreign, I'm a threat. If DC got the music, I'm providing you the rest. Buckle up now, you're riding with the best.
I'm gonna rise as a
sanity, all cause low success, race is the enemy. Look, I'll come to shine and dedicate to philanthropy. Oh, cause either that I will exit straight into infancy. So I'm on the mission and this is the devil's kitchen. But still shining was climbing, see an inch in the levels lifting. Look, both hands around your neck, this is the rebel's mission. Go against the grain, ain't got my eye on a sparrow. Listen, path laid out by the pyramids, feel it, the pharaoh's gripping. Disappeared in the rabbit hole, it's deeper than narrow, reaches close. But when I emerge, ether in their existence, to anybody who died at me, forgot that I could possibly keep it popping defiantly, cause she is so consistent. Like, I'm spitting if you need to know the difference. And yes, I can see it in your eyes when people go with mentioning. You know it's me, you see it from a distance, cause I shine.
I'm gonna rise as a
and finally get caught up, brought up on charges of driving and drinking. I'm finally sinking and mindless and thinking. My kindness combined with my karma provide me the armor to calm the storm. Rhyme is a ticket, at least dance with a feeling as a steer in the mirror. Scared to admit I'm nearer to feel you than hearing the cheering and millions of fiends tearing up wearing my shirts, pillaging scenes. All this to get a CD with my signature stamped. If you fear them, I ranch, you've been on the side of the dream. Sometimes I lie to my team, tell them I provide them with green. Once I sign in the sheet, my silence it seems is taken as I'm taking a break. It's not that I'm breaking or taking a break, it's that I'm waking up and taking up space. Cause in my house I haven't made it, got late payments and don't make enough cake. I'm writing to you if you can relate to rising up through the relying on brew. Night sleeping inside of the stew, it's not the trying to be cool. But you're not 19 anymore, what time gonna lose? Your kids rely on you for food. You ever wanted something so bad every second you imagine that you're seconds from having it. It's affecting your friendships, eventually wrecking your chances of meeting someone whose wedding is planned as marrying a rapper who doesn't get checks or advances. Just cash and trips up to France where your vets in a band with better chances. Your feet stepping foot on the steps of Atlantis. Y'all don't get it, it ain't everything it seems on TV. Pray for those that dream to be me, cause I dream for grief to leave me. No longer the weak and needy, prolonged till my feet will leave me. You're wrong if you keep believing my songs will sleep and weaken. I'ma keep on rising, make it through this nonsense. The constants, to be honest, help me harness the words, the birth of the dawn. I told you we never give up, we climbing my chain. The fighters who claw back, this is our song.
mon fi. Dana am, Dana am, am. Waje te de bahaji gudi, mune jabarji. Kuma la kene kuma fi, but set no. Jabarji juk dem Marseille, waje juk dem yonam. Yomi wote am ga alal, luta nga lali baye sa njabot. Yomi wote am ga alal, luta nga lali baye sa njabot. Waji mingak BMW, muko ci dunia mute de banelaw. Mayor sa mambam, say buma yow warko. Buma te de nelaw, bapi donti, bapi donti ya.
Pour l'heure en temps universel, il est 4h, 2h de plus, 6h à Paris, toujours sur Radio France Internationale. Pour retrouver le journal de Gaëtan Plenet, bonjour Gaëtan.
Bonjour Edouard, bonjour à tous.
Nous sommes le jeudi 11 juin 2026 et c'est parti.
La 23e Coupe du Monde masculine de football commence ce soir au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Trois pays organisateurs, c'est du jamais vu. Tout comme d'ailleurs le nombre d'équipes engagées, 48, on y consacre une large part de ce journal. Avant une édition spéciale, à partir de 6h10 en temps universel. On va faire aussi un point dans ce journal sur la situation au Moyen-Orient. Après une nouvelle nuit de frappe entre Américains et Iraniens, on sera en Espagne, à Barcelone, où le pape Léon XIV a béni hier soir la plus haute tour de la basilique de la Sagrada Familia. On parlera ensuite de cette grève de médecins qui commence en République démocratique du Congo, en pleine épidémie d'Ebola. Et puis la 11e heure, un recueil de 5 nouvelles, c'est signé Salman Rushdie. Et ça sort aujourd'hui en France. On va voyager aujourd'hui sur RFI, on s'est lancé ce défi, passer une tête tout au long de la journée dans quelques 48 pays et pas n'importe lesquels. Ceux qui rêvent de remporter la Coupe du Monde masculine de football, elle débute ce jeudi au Mexique, l'un des trois pays organisateurs et qui ouvre le bal contre l'Afrique du Sud. Deux autres pays accueillent cette 23e édition, le Canada, mais aussi les États-Unis, qui ne sont pas forcément, c'est vrai, un grand pays de football, mais qui misent beaucoup quand même sur cette compétition. Bonjour Vincent Sorio. à Vincent Sorio qu'on essaie de joindre notre correspondant à Washington. Est-ce que vous m'entendez, Vincent?
Je suis là, Gaëtan.
Super. Eh ben merci. Je lisais, les États-Unis co-organisent cette édition. C'est pas un grand pays de football et pourtant les États-Unis de Donald Trump sont fiers. Hein. C'est l'occasion de faire rayonner l'Amérique.
C'est ça, ouais. Ils veulent en faire un truc sexy, comme dirait Donald Trump. Ça a même été matérialisé par un décret présidentiel au mois de mars. L'idée, c'est de faire de cela une vitrine de l'exception américaine. C'est comme ça que la Maison Blanche le présente. Mettre en valeur la fierté nationale, l'hospitalité américaine et ne pas oublier, bien sûr, les retombées financières du tourisme sportif. Dans la tête de Donald Trump, il y a une vraie dimension patriotique aussi, puisque en plein milieu de la compétition, le 4 juillet, les États-Unis vont fêter leurs 250 ans et la présidence américaine essaye d'utiliser ce chevauchement, le mondial, en même temps que l'anniversaire de l'indépendance, pour montrer à quel point les États-Unis sont arrivés au pic de leur savoir-faire en matière d'accueil, de logistique et de sport. Donald Trump répète chaque semaine que grâce à lui, son pays est redevenu sexy. Évidemment, pour lui, la Coupe du Monde va dans ce sens. Et comme c'est Donald Trump, il ne va pas se priver de tirer la couverture à lui. Il a prévenu qu'il monterait sur scène le jour de la finale pour remettre en personne le trophée au vainqueur de la compétition. On ne sait pas encore, Gaëtan, si les chefs d'État du Mexique et du Canada qui co-organisent ce mondial seront invités à participer.
Merci Vincent Sorio, en direct de Washington. On aura évidemment l'occasion de vous retrouver tout au long de ce mondial. Autre pays organisateur, on le disait, le Canada, qui jouera son premier match demain face à la Bosnie-Herzégovine. C'est seulement la troisième Coupe du Monde disputée par les Canadiens. Alors l'avoir à domicile, c'est évidemment une aubaine, surtout que le football n'a jamais été aussi populaire auprès de la jeunesse du pays. Un pays plutôt friand de hockey, sauf que le hockey, ça coûte souvent cher en équipement. Le ballon rond, c'est plus accessible et ça explique peut-être ce succès grandissant. Correspondance à Montréal de Nafi Alibert.
On est prêt, on va encourager les Rouges.
Les Rouges, c'est le surnom de l'équipe canadienne de football, mais la feuille d'érable sur le maillot que porte Simon a d'abord brillé sur la glace.
À la base, c'est le sport national, c'est le hockey. Donc, au départ, je suis un fan de hockey, mais je suis un gros fan de foot. Donc, j'encourage le Canada, mais avec le gilet de l'équipe canadienne, mais au hockey de 1972.
Un demi-siècle plus tard, le hockey reste le sport le plus regardé au pays. Mais le ballon rond a pris l'avantage sur les terrains de quartier. Pour Sophie, 17 ans, le choix a été évident.
C'est plus comme accessible à jouer que si tu as juste besoin d'un bad.
Quatre fois moins coûteux qu'une saison de hockey et porté par un Canada de plus en plus diversifié, le football est devenu le sport le plus pratiqué chez les jeunes. Victor fait partie de cette génération de footballeurs qui a grandi avec le capitaine des Rouges comme modèle.
Alphonso Davies, c'est le meilleur joueur du Canada. Il joue pour le Bayern Munich.
Pour lui, ce mondial à domicile place enfin le football canadien sous les projecteurs et nourrit de nouvelles ambitions.
Ben, c'est spécial parce que c'est notre pays. Je pense qu'ils vont sortir de leur poule à la Coupe du Monde.
Premier test pour les Rouges demain à Toronto face à la Bosnie-Herzégovine. Nafi Alibert, Montréal, RFI.
Et parmi les équipes qui participent à cette édition, l'Angleterre. Alors là, pour le coup, c'est une grande nation de football. On dit même que c'est là-bas que les premières règles de ce sport ont été écrites. Les Anglais aiment le foot, même si ça a longtemps rimé avec violence en raison de l'hooliganisme, en particulier entre les années 70 et 90. Ça se terminait souvent les matchs en grande bagarre pour les supporters. Résultat, aujourd'hui, les plus violents d'entre eux sont interdits de voyager pendant ces grandes compétitions comme la Coupe du Monde. À Londres, Emeline Vin.
Plus de 2500 supporters de foot condamnés pour des faits de violence ou d'alcoolémie avancée ont dû remettre leur passeport aux autorités début juin et ne le récupéreront qu'après la finale de la Coupe du Monde le 19 juillet. Daisy y voit une excellente initiative.
Il ne faut pas donner à ces gens l'opportunité d'être dangereux ou racistes, par exemple. La Coupe du Monde doit être un privilège qu'ils ont perdu.
Le mouvement hooligan, longtemps lié à l'extrême droite, a entaché la réputation de l'Angleterre à l'international, estime Pete.
C'était affreux. Les supporters anglais faisaient peur. Partout où ils allaient en Europe, des milliers de policiers étaient déployés en mode « les Anglais arrivent ». De là à dire que tous les fans anglais sont des hooligans, non, ce n'est plus le cas maintenant.
Grâce aux restrictions des années 2000, dont les interdictions de voyage, mais pour George, grand fan de foot, il reste du travail.
En première ligue, c'est devenu un peu chiant. Mais dans les divisions semi-professionnelles, il reste un peu de hooliganisme. Ça va des pétards à la violence physique.
Il souligne tout de même que lors de la finale de la Ligue des Champions fin mai, les dégradations sont venues de supporters parisiens, pas anglais. Émile Van Londres, RFI.
En tout cas, Angleterre-Croatie, ce sera mercredi prochain. Je ne vais pas faire tout le programme de la Coupe du Monde, ce serait long. Il y a 104 matchs au total pour cette édition de tous les records. Vous retrouvez d'ailleurs un article à ce sujet sur RFI.fr. Nous, on sera en édition spéciale sur l'antenne de 6h10 à 8h en temps universel, présentée par Andréane Mellard, avec en plateau l'ancien sélectionneur des Lions de la Teranga, Claude Leroy, et l'ex-international camerounais Benjamin Moukandjo. Et puis ensuite, un appel sur l'actualité spéciale Coupe du Monde, à l'occasion pour vous de nous dire vos favoris. Les 6h07 à Paris. Une messe d'une heure et demie en latin, en espagnol, mais aussi en catalan pour le pape Léon XIV hier soir à la Sagrada Familia de Barcelone. Catalan comme Antoni Gaudí, l'architecte de cette basilique, en tout cas le premier, parce qu'il est mort il y a 100 ans, il n'aura pas eu le temps d'achever les travaux. Ce n'est toujours pas fini aujourd'hui d'ailleurs, mais ça avance quand même avec notamment cette tour de Jésus-Christ achevée il y a quelques mois et désormais bénie par le pape. Elle culmine à plus de 172 mètres, ce qui fait de la Sagrada Familia la plus haute église du monde. La messe d'hier soir s'est achevée par une inauguration grandiose, un spectacle de son et lumière. Élise Gazangel y était, reportage.
D'abord l'amour, ensuite la technique. Cette phrase du génie architecte Antoni Gaudí a été écrite à l'aide de drones dans le ciel de Barcelone lors de l'inauguration de la dernière tour centrale de la Sagrada Familia ce jeudi soir. Un spectacle de son, lumière, drones et feux d'artifice qui n'a eu qu'une critique parmi le public, David Gomez, barcelonais.
Cette tour, l'illumination, la musique, tout était très bien, c'est très joli. Même si c'était un peu trop court, j'aurais aimé que ça dure plus longtemps.
Après une messe célébrée par le pape et la bénédiction de cette tour de Jésus-Christ, la Sagrada Familia ce soir a brillé dans le ciel de Barcelone. Albert Monré, résident du quartier, résume.
La Sagrada Familia était déjà impressionnante, mais de la voir désormais illuminée avec cette cérémonie avec le pape, ça marque un jour historique pour Barcelone.
Un jour pour la postérité, pour la Sagrada Familia qui, comme l'a décrit le pape lors de sa messe, est beaucoup plus qu'un monument. Élise Gazangel, Barcelone, RFI.
Le pape qui achève sa visite en Espagne par un déplacement aux îles Canaries, il y est attendu à la mi-journée, restera 48 heures dans cet archipel, l'une des principales portes d'entrée pour les migrants qui tentent de rejoindre l'Europe depuis l'Afrique de l'Ouest, au péril de leur vie. Léon XIV qui, dans son homélie hier à la Sagrada Familia, a dit cette phrase aussi: impossible de croire en Jésus et de promouvoir la guerre. Il n'a cité personne, mais difficile de ne pas y voir quand même une allusion à l'administration américaine et à sa guerre menée en Iran. Et justement, nouvelle salve de frappes américaines cette nuit dans la République islamique contre des installations de surveillance militaire, des systèmes de communication et des sites de défense aérienne. Les médias iraniens rapportent, eux, des explosions sur la côte sud du pays. C'est la deuxième nuit de suite et l'Iran a à nouveau répliqué avec des frappes contre des bases américaines à Bahreïn, en Jordanie, mais aussi au Koweït qui annonce fermer temporairement son espace aérien. L'Iran promet de prendre pour cible tous les navires s'aventurant dans le détroit d'Ormuz, assurant d'ailleurs y avoir déjà touché deux bateaux et affirmant aussi que ce point de passage, qu'on sait stratégique notamment pour le commerce mondial de pétrole, sera fermé jusqu'à nouvel ordre. Washington dément tout nouveau blocage de ce détroit. Et ce communiqué, publié par quelques 22 pays, dont les États-Unis, mais aussi l'Australie, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, il condamne d'une même voix, je les cite, les tentatives de meurtre et autres actions malveillantes menées dans leur pays par des entités étatiques iraniennes, notamment contre des dissidents iraniens, des journalistes ou encore contre des membres des communautés juives et israéliennes. Israël qui a à nouveau bombardé le sud du Liban hier. 12 personnes ont été tuées malgré le cessez-le-feu. Le premier ministre israélien a adressé un message aux Libanais. Nous ne sommes pas en guerre contre vous, mais contre le Hezbollah qui a pris votre pays en otage, leur dit Benjamin Netanyahou. En République démocratique du Congo, le syndicat libre des médecins Silimed, troisième syndicat de médecins du pays, appelle à une grève à durée indéterminée, à partir d'aujourd'hui dans le secteur public. Il dénonce, ce syndicat, l'absence de réponse du gouvernement à ses revendications de salaire, de moyens et de conditions de travail. Une grève qui intervient en pleine épidémie d'Ebola dans la province de l'Ituri. Alexandra Brangeon.
près de 2500 médecins du secteur public n'ont pas reçu leur salaire depuis plusieurs mois, affirme ce syndicat qui appelle à la grève. Il dénonce des salaires et des primes impayés, de mauvaises conditions de travail et une précarité de la profession, alors que les médecins sont en première ligne pour lutter contre l'épidémie d'Ebola, déplore le docteur André Kasongo-Kasomboi, secrétaire général de Silimed.
Ils sont impayés. La couverture de santé reste impayée dans les provinces, ça fait plus de 11 mois. Et il doit combattre un virus. On ne va pas continuer à motiver les gens à aller combattre Ebola, tandis qu'ils sont impayés.
Trois médecins sont décédés en Ituri depuis le début de l'épidémie, il y a un mois. Le dernier, un jeune médecin décédé dimanche dernier à Niakoundé, près de Bounia. Pour ce médecin d'un centre de santé de l'Ituri qui souhaite rester anonyme, ces mauvaises conditions de travail pèsent sur le moral du personnel de santé.
Nous avons autant de mois sans être payés, alors que les conditions dans lesquelles nous travaillons ne sont pas du tout bonnes. Moi-même qui vous parle ici, je n'ai même pas de salaire. Moi, je ne reçois que des primes, alors que les primes, on peut couper à tout moment. Il n'y a pas une motivation, alors qu'il est en train de courir un risque de vie.
Le syndicat assure toutefois que les services d'urgence continueront de fonctionner afin de garantir la prise en charge des cas les plus graves.
Alexandra Branjon. L'écrivain américano-britannique d'origine indienne Salman Rushdie de retour en librairie. 4 ans après l'attaque au couteau dont il a été victime, il revient à la fiction avec La 11e heure, un recueil de 5 nouvelles avec des personnages qui s'interrogent sur le sens de leur existence, Elisabeth Le Carré.
Avec Salman Rushdie, la biographie n'est jamais séparable de l'œuvre, née à Bombay en 1947, formé à Cambridge, consacré par les enfants de minuit en 81, visé par une fatwa en 89 après les versets sataniques, poignardé en 2022, l'homme a traversé des épreuves que la fiction elle-même aurait du mal à inventer. 2 ans après le couteau où Rushdie racontait l'attentat et sa longue et douloureuse rééducation, il revient à l'invention pure et au conte. La 11e heure réunit 5 nouvelles ancrées dans les territoires qui ont façonné sa vie, l'Inde, l'Angleterre et les États-Unis, avec ce fil conducteur des personnages aux prises avec la vieillesse et la mort. On y retrouve bien sûr sa marque de fabrique, ce mélange de réalisme magique et d'ironie politique. Mais quelque chose a changé, car la 11e heure, c'est bien ce moment, juste avant minuit, où il ne reste plus de temps pour les digressions. Rushdie écrit désormais comme quelqu'un qui sait ce que signifie être sur le point de disparaître et qui a choisi en réponse de raconter encore et encore.
La 11e heure de Salman Rushdie s'apparaît aujourd'hui en France aux éditions Gallimard.
La Coupe du Monde de la FIFA, c'est à vivre sur RFI.
Le retour de l'actualité africaine dans un gros quart d'heure. À suivre d'ici là, notamment notre invité culture, le conseil santé du jour aussi. Mais d'abord, on reparle de l'événement sportif du jour et du mois à venir, la Coupe du Monde masculine de football qui commence donc ce jeudi aux États-Unis, au Canada et au Mexique. 48 équipes engagées. Parmi elles, les Lions de l'Atlas marocains qui font partie des favoris cette année. Ils sont 7e au classement FIFA, demi-finalistes de la dernière édition. Alors difficile pour eux de ne pas être ambitieux, voire conquérants. Les supporters marocains y croient fort, très fort. Pour eux, c'est sûr, cette fois, c'est la bonne. Reportage à Casablanca de Mathias Reynal.
Leur équipe n'a pas encore touché un ballon, mais ils se préparent déjà à la victoire finale.
Évidemment, les Marocains vont devenir fous, on les connaît, ça va être la folie.
Et certains...
This feeling keeps me up at night. What can it be? It's only love.
It's only love.
It's only love. Where will it go away? Could it be temporary? Or could it be just a phase?
What a waster, what a fucking waster. You pissed it all up the wall. And round the corner where they chased her, there's tears falling out from everywhere. The city's hard, the city's fair. Get back inside, you've got nothing on. And mind your bleeding own YouTube, Bob Cunt. When she wakes up in the morning, she writes down all her dreams. Reads like the Book of Revelations or the Celestine prophecies. Oh, I really wanna know, where does her money go? Where does all the money go? Straight up her nose. And I never even liked it anyway. I much prefer it the other way. What a divvy, what a fucking div. Talking